Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kerrow.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h05, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi et le dimanche de 9h à midi. Alors si pour vous il est 10h05, ça veut dire que vous n'avez pas changé l'horaire, ok? Donc n'hésitez pas, il est 11h05, c'est très important. Et si vous avez raté les deux premières heures, n'hésitez pas à aller nous réécouter en podcast. Toujours avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Renaud Longuèvre, Cyril Marais dans quelques instants, le bras de fer des GG, des Jeux Olympiques et la tradition de se donner un objectif de médaille. Est-ce indispensable ou ridicule? Et puis 11h30, le bonbon nostalgique de Christophe Cessieux et son C'était mieux avant. Aujourd'hui, nous allons rendre, et Christophe Cessieux va rendre un hommage à Johan Cruyff, disparu il y a 6 ans. Je sens que ça va faire plaisir à Pascal Duprat, qui adore évidemment, qui idolâtre Johan Cruyff.
C'est la génération, c'est notre génération, oui. Évidemment. C'est notre idole.
Johan Cruyff, narré par Christophe, je me languis d'y être.
Restez bien avec nous, ce sera dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, les artistes entrent dans l'arène. J-488 avant les Jeux Olympiques de Paris. Et voilà, ressurgir le débat sur les objectifs de notre équipe de France. Des objectifs qui ont évolué depuis l'attribution des Jeux en France. D'abord, c'était 80 médailles, puis intégrer le top 5 des nations médaillées. Mais se donner un objectif, est-ce bien raisonnable? Dans le coin gauche, la team, c'est même indispensable. Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Dans le coin droit, la team, c'est ridicule. J'ai envie de dire, la team, c'est ridicule. Ce sont des athlètes olympiques. Renaud Longuèvre avec l'athlétisme et Cyril Marais avec le judo, médaillé d'ailleurs olympique au judo. Renaud Longuèvre, Cyril Marais vont donc affronter Christophe Cessieux et Pascal Duprat. C'est le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Un jour, il va falloir vraiment qu'on tranche cette question quand même. Bref, avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Morgane Maury. Salut Morgane. C'est le bon micro, mais c'est pas le bon. Est-ce qu'on peut allumer le micro de Morgane, s'il vous plaît, les copains? Voilà, c'est bon. Non, mais
bonjour,
non,
à tous. Ah,
bonjour à tous.
On va le refaire. T'inquiète pas, on n'est pas en direct, on coupera sans problème. Morgane Maury.
Quand même. Hein.
Oui, c'est
il
un petit peu long.
Beaucoup d'émissions.
Alors historiquement, Morgane, la France se donne-t-elle un objectif?
Oui, la France affiche ses ambitions. Le maître étalon, c'est souvent l'édition précédente. Les patrons du sport tricolore préfèrent quand même à chaque fois donner des ordres de grandeur. Avant les JO de Pékin en 2008, les Bleus évoquaient 33 à 40 médailles au final, bonne surprise, 43 dont 7 en or, 10e place des nations. À 100 jours des Jeux Olympiques de Londres 2012, Denis Masselia, alors patron du comité olympique et sportif français, donnait ses prédictions au micro de l'agence France Presse.
Le nombre de médailles, il est au moins au niveau de celui qu'on a obtenu à Pékin, c'est-à-dire à 41. Et en termes de médailles d'or, d'avoir un nombre de médailles d'or qui soit un nombre à deux chiffres.
Ouais, il a vu juste sur les médailles d'or, 11 médailles d'or, mais moins de breloques, 35, 7e place des pays. Avant Tokyo, la délégation en tricolore a tablé sur 40 récompenses et 35 lors des Jeux paralympiques. Ce sera 33 pour les valides et un record chez les paras avec 55 bouquets. La France sait qu'elle va accueillir ses JO 2024 depuis 2017. Et quelques jours après l'attribution, Laura Flessel, ministre des Sports, a annoncé la couleur.
Insuffler, aller chercher une dynamique, avoir un cap, c'est 80 médailles.
Voilà, 80 médailles, objectif révisé, on parle de top 5 maintenant. Petit rappel sur les dernières éditions, pour les PIO, Chine 2008, première place, 100 médailles, record. Grande-Bretagne 2012, troisième, 65 médailles, du jamais vu depuis 1908. Brésil 2016, 13e, 19 médailles, record. Japon 2020, troisième, 58 médailles, record. Les records français, Atlanta 96, 15 titres et au nombre de médailles, Pékin 2008 avec 43.
Merci beaucoup Morgane Maury pour cette histoire de l'équipe de France et des Jeux Olympiques à travers les médailles. Alors, on vous a posé la question sur notre compte Twitter depuis tôt ce matin. Est-ce que pour vous c'est indispensable? Est-ce que c'est ridicule? Vous êtes nombreux à voter sur notre compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour l'instant, sachez que pour l'instant, voici le résultat de ce vote. C'est assez rare ce qui se passe. Hein. C'est assez rare dans l'histoire du bras de fer des GG. Nous sommes pile à 50-50. Indispensable, ridicule, il va falloir trancher. Christophe, c'est sûr, pour toi.
Voter, je viens de voter tout de suite.
Je viens de voter aussi.
Toujours 50-50. Pour l'instant, après des milliers de votes, votre vote ne fait pas le poids, les copains. Pas encore, en tout cas. C'est vos arguments qui vont toucher les auditeurs. N'hésitez pas à composer le 32-16. Christophe.
Attends, je vote d'abord.
Non mais qu'est-ce qu'il y a? Non, d'abord tu réponds et ensuite tu voteras. Pourquoi c'est indispensable?
Alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça ridicule, objectif de médaille, surtout quand on est sportif ou coach, qu'on se bat pour progresser individuellement, passer de la 15e à la 4e place, évidemment ça n'intéresse personne, sauf les coachs et les sportifs. Mais on le sait, les Jeux Olympiques, l'objectif c'est la médaille. Le tableau des médailles, c'est la fierté des nations, c'est un tableau qu'on analyse après les Jeux, dont on s'enorgueillit ou on en pleure en fonction de la place du pays. C'est comme ça depuis longtemps, même si le CIO se bouche le nez lorsqu'on lui parle de course à la médaille. Pour lui, cette course n'est pas dans l'esprit olympique, le fameux esprit Coubertin, l'important c'est de participer. Peut-être pour certains athlètes, mais pas pour les dirigeants de leur pays. Macron, le président de la République, l'admettait après les Jeux de Tokyo en expliquant « Le succès des Jeux, ce sera le succès de nos sportifs, car ça marche comme ça. Et le succès des sportifs aux Jeux, c'est d'obtenir des médailles. Ça se compte en médailles. Les quatrièmes places et autres places de finalistes, ça intéresse que les coachs et les athlètes, pas le grand public. Le grand public, il veut des médailles. C'est pas nouveau que l'enjeu des Jeux Olympiques soit un enjeu politique. Depuis la fin du 19e siècle, c'est comme ça. Lorsque les journaux américains avaient lancé la logique de comptabilisation après leur triomphe à Athènes en 1896, ils avaient obtenu le premier rang des médailles avec 11 titres à l'époque et ils défendaient la thèse que les résultats des Jeux sont le reflet de la puissance des nations. Quand tu es aux Jeux Olympiques, c'est une sorte de guerre mondiale pacifique. Mais tu te bagarres contre les autres et tu veux donc être plus fort que les autres. Et donc, être premier au tableau des médailles, ça rend fou. Et moi, je me rappelle de mon chef aux Jeux, alors je ne sais plus si c'était à Londres ou à Pékin, il regardait le tableau des médailles tous les soirs. Tous les soirs. Alors quand on gagnait un rang, il était comme un dingue. Et quand on perdait un rang, il nous emmerdait toute la journée, il nous mettait une pression pas possible. Et quand il y avait des médailles, alors il était fou parce que les Français à l'époque ne remportaient pas beaucoup de médailles d'or, mais que des médailles d'argent et des médailles de bronze. Ils disaient, ça sert à rien ces médailles d'argent, médailles de bronze. On s'en fout, ça fait pas monter au tableau des médailles. Ça rend dingue. Le tableau des médailles aux Olympiques, ça rend complètement dingue.
Ok, donc pour toi c'est indispensable. Qui veut se lancer? Cyril Marais, votre réponse pour lui, c'est ridicule.
Mais bien sûr qu'on a envie d'être les meilleurs au niveau du tableau des médailles. Bien sûr qu'on a envie d'aller chercher les médailles quand on est athlète de haut niveau, qu'on a la chance de disputer les Jeux Olympiques à la maison, à domicile, à Paris. Moi, ce qui me dérange, c'est l'objectif. Fixer un objectif. Qui va fixer un objectif? Qui? Comment? Sur quelle base? Comment tu peux fixer un objectif? Les athlètes ont été reçus à l'Elysée après les Jeux de Tokyo. Monsieur le Président dit félicitations pour le nombre de médailles, 40 médailles, ce qu'il faut c'est 80 fois. Mais tu te bases sur quoi? Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour avoir un nombre de médailles suffisant pour être parmi les meilleurs?
Il faut mettre les moyens les objectifs, c'est ça que tu
veux dire. Bien sûr, c'est la base de tout aujourd'hui. Quand tu te fixes des objectifs, c'est moyens, c'est ce que tu mets en place pour pouvoir y arriver. Et après derrière, tu dis...
C'est ce qu'ont fait les Anglais à Londres en 2012.
Aujourd'hui, nous, alors on a des primes de résultats, c'est super. Aujourd'hui, les Anglais, leur prime de résultats, c'était quoi? Une tête sur un timbre. Les champions olympiques, ils avaient une tête sur un timbre.
T'aurais bien aimé d'avoir ta tête sur un tour.
Ouais, je pense que ça aurait été sympa, ouais. Je les collectionne pas.
Ils avaient 4 ronds aussi, non? En gagnant un titre. Ils avaient 4 ronds aussi.
Non, mais ils ont mis les moyens avant.
Aujourd'hui, on a énormément de sportifs qui demandent des bourses pour pouvoir s'entraîner tous les jours, qui vont aller disputer les Jeux Olympiques à Paris. Enfin, je veux dire, pour moi, aujourd'hui, il est là le problème. On met pas les moyens pour aller se fixer des objectifs. Donc, c'est trop facile de dire, on passe de 40 à 80 médailles. Mais des objectifs, quand tu te bases sur des objectifs, quand tu donnes des objectifs, il faut s'en donner les moyens. Okay. Et aujourd'hui, la France, pour moi, ne donne pas les moyens au sport français pour qu'on puisse être les meilleurs possibles sur ces Jeux.
Pascal Duprat, c'est indispensable.
Alors, c'est un autre problème, c'est un autre débat. Et là, je te rejoins.
Mais c'est pas un autre débat.
Toujours les moyens.
Non, mais c'est pas notre débat, Pascal, parce qu'aujourd'hui,
voilà, je te parle en qualité d'entraîneur que je suis. Je sais très bien que on va se fixer sur la performance, et puis la conséquence, ça sera le résultat. Mais néanmoins, peu importe que ça soit des dirigeants qui fixent des objectifs, mais comme l'a très bien dit Christophe, ça représente le pouls d'une nation, le nombre de médailles que l'on remporte aux Jeux Olympiques. Et puis entre deux Jeux Olympiques, ça peut aussi inspirer des tendances. Si par exemple, vous échouez dans un sport, eh bien, vous en tirez des conséquences, vous changez les entraîneurs, vous changez les contenus, et vous présentez des programmes qui peuvent nous permettre ensuite, les Jeux Olympiques suivants, d'être compétitifs. Donc, ça sert à ça aussi, ce bilan qui est dressé. Et puis, je vois pas pourquoi ça altérerait la motivation ou ça braquerait les joueurs, les athlètes aux Jeux Olympiques que de définir un objectif. Tous autant qu'ils sont, en tout cas, tous ceux qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques en 2024, ils vont tous avoir envie de concourir et d'obtenir une médaille. Mais bien ça, sûr. C'est sûr et certain. Mais donc, en cela, je vois pas pourquoi ça serait scandaleux de définir un objectif en nombre de médailles.
Ce qui est scandaleux aujourd'hui, moi, ce que je trouve scandaleux aujourd'hui, c'est de pouvoir se permettre de dire on va fixer un nombre de médailles, on va fixer un objectif. C'est ça, moi, mon problème, Pascal, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ça va être limite avec un peu le hasard, en fait. Tu vois, tu mets pas des choses en place, donc ça veut dire que ça peut bien se passer, comme ça peut mal se passer, on verra comment ça se passera. Non, tu sais très bien que dans le sport, tu mets des choses en place pour aller chercher la performance. Tu mets des choses en place et l'aspect, on en a parlé tout le matin, mais l'aspect pécunier aujourd'hui, on a besoin pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir être libéré dans sa tête. On a besoin d'avoir des subventions, de l'argent pour pouvoir s'entraîner sans se poser de questions, sans aller faire de la mise en rayon dans un supermarché ou aller faire du service dans une restauration le soir. Ça, c'est pas normal. Okay, donc aujourd'hui, tu peux pas fixer des objectifs sans avoir les moyens de les atteindre.
Ok, et toi, ce que tu reproches, c'est aux politiques de fixer des objectifs alors qu'ils n'ont pas mis en place et qu'ils n'ont pas mis la main au portefeuille pour permettre ce type d'objectif.
On va pas dire pas, mais pas assez.
Mais pas assez, très bien. C'est à toi, Renaud Longuet.
J'y sais. Moi, je suis...
Atterré, outré, énervé,
non, je suis
gentil, mignon.
Je suis pas surpris. Pascal Duprat et Christophe Cessieux sont hors sujet. je ne suis pas surpris concernant Christophe Cessieux, mais je suis déçu de Pascal.
Okay. Bien sûr, tu ne seras pas le premier, c'est pas grave.
Non, mais on est déçu par les gens qu'on estime.
Ne retourne pas ta veste parce que tu vas voir le retour de manivelle ensuite. Tu vas prendre la parole avec Christophe. Vas-y, défends-nous, vaut mieux.
Cessieux, c'est tous les dimanches. Mais toi, Pascal, je t'ai connu meilleur. Mais c'est pas grave, tu te reprendras et tu auras
bien. Mais lui, le micro, tu l'as.
Allez, vas-y.
Non, là-dessus, la question, c'était est-ce nécessaire, indispensable d'annoncer un objectif de médaille. Moi, j'ai été manager général de l'équipe de France d'athlétisme. Je peux vous dire que c'était la pression, c'était nos dirigeants, les dirigeants,
tu
les élus.
Tu as obtenu tes objectifs ou non? Est-ce que tu as obtenu tes objectifs?
Mais écoute bien ce que je vais te dire, Christophe Cessieux. On a fait mieux. Les dirigeants nous bassinaient tout le temps, les attachés de presse. Les journalistes demandent, il faut que t'ailles en conf de presse, il faut que t'ailles annoncer un objectif de médaille. Barcelone 2010, le record historique de la France au championnat d'Europe, c'était 15 médailles à Budapest en 66. Le DTN avec Gagny Alouz, on se regarde, on dit qu'est-ce qu'on fait? Des médailles, on en veut un max. On arrive en conf de presse, moi je dis, je refuse de donner un nombre parce que voilà, tu peux pas savoir, tu vas avoir un zéro à la perche ou un truc, un machin. Je peux vous jeter un nombre en l'air, ça va vous donner quoi? Machin, bon, ok, les dirigeants, les attachés de presse, mais allez, livre-toi, donne un nombre. Le record de médaille était 15, on fait 18. Si j'avais dit 12, quelque part, tu limites les gens. C'est comme quand tu prends un mec au 100 mètres, et puis il a un record à 10 secondes, et puis tu lui dis, allez, l'objectif c'est 9,90. Mais si dans les jambes il a 9,70, mais laisse-le faire mieux. Tu peux limiter les gens aussi vers le haut en donnant un chiffre comme ça. Alors, avec Flessel, on va pas limiter, on fera jamais plus de 80 médailles. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est vraiment un truc de dirigeant ou de journaliste d'annoncer un nombre de médailles. Parce que nous, on en veut un max. Et si on peut casser la baraque et aller chercher les fonds de tiroir et faire la médaille surprise, on va y aller. Tu vois, un Cyril Marais, il est dans le même esprit que moi. C'est que nous, quand on est dans le combat, et chaque jour, chaque matin qu'on se lève dans un championnat, on y va pour casser tout. Et pour aller chercher
Rio, ils m'ont dit, n'oublie pas que t'as aucune chance, fonce.
Vous êtes complètement hors sol dans tous les domaines de la société. On fixe des objectifs dans les entreprises aussi. On nous fixe des objectifs d'audience. Et si tu les dépasses, c'est génial. Et si tu les dépasses pas, tu te fais virer ou tu voilà.
On en revient à dire que
la société qui est comme ça.
Oui, mais on en revient à dire que dans le milieu professionnel, on y met les moyens pour arriver aux objectifs.
Pas toujours. toujours.
Pas toujours. Mais moi, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que là aujourd'hui, c'est le rêve de tous sportifs qui vont se présenter là. Ils s'entraînent dur tous les jours pour ça. Bien sûr qu'ils vont tous donner le maximum d'eux-mêmes. Et si ça marche pas, ça marche pas. Mais ils vont tous y aller pour être champions. Le discours de Fabio tout à l'heure, il va pas dire c'est pour être troisième. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Si tu fais du sport pour perdre, t'es pas sportif, t'es pas compétiteur. Tout le monde veut gagner. Donc quand les mecs ils vont s'engager, ça va être pour gagner. Maintenant, aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on pourra pas être performant partout. Et il y a aussi une chose qu'il faut se dire, c'est que on va avoir beaucoup plus d'engagés dans toutes les disciplines aux Jeux Olympiques, parce que lorsqu'on est pays organisateur, on peut présenter quelqu'un dans chacune discipline. Tu me dis si je me trompe ou non, mais nous par exemple, on a une qualification olympique pour pouvoir aller faire les Jeux Olympiques dans d'autres pays. Sachant qu'on est le pays organisateur, on aura un représentant dans chaque catégorie. Quoi qu'il arrive, même si t'es pas dans les points, t'auras un représentant.
Donc plus de chances.
Donc plus de chances d'avoir des médailles. Si t'as un mec chez nous au judo, bon, ça se présentera pas. Mais si t'as
quand même rare qu'un mec qui est pas dans les meilleurs mondiaux.
Mais regarde ce week-end au judo, grand chelem de Géorgie. T'as un Mongol, 157e mondial. Un petit jeune, il arrive, il a gagné le tournoi. Il a pris le numéro 1 géorgien en demi-finale, il l'a éclaté.
Ouais, c'est pas les Jeux Olympiques.
C'est pas les Jeux Olympiques, mais ça peut arriver.
Je suis pas allé chercher des grosses surprises en judo. Morgan, des mecs qui étaient qualifiés d'office et qui ont réussi à remporter les compétitions en battant les tout meilleurs.
Patate chaude, j'espère que tu as
réussi. Le meilleur exemple, c'est en 2008, Pékin, italienne, en moins 57 kilos. Voilà. Barbara Harel, les plus fortes de la catégorie, la nord-coréenne notamment, qui était multiple champion du monde, et Quintaval, l'italienne, que personne n'avait vu venir, qui traverse tout le tableau et qui profite, en gros, de celles qui ont battu les plus fortes et qui devient championne.
Tu vois, les Italiens sont très forts là-dessus. En 2016, Fabio Basile, italien, moins de 66 kilos, il se qualifie au chemin d'Europe pour les Jeux Olympiques, il se qualifie au chemin d'Europe au mois d'avril. Il fait troisième, je crois, au chemin d'Europe au mois d'avril, il se qualifie pour les Jeux. Il arrive aux Jeux, il a éclaté tout le monde. Champion olympique.
Je précise juste, Renaud, que Cyril Marek, vous écoutez, donc judoka, est médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Bah,
l'arbitrage,
en 2016.
Encore, l'arbitrage, toujours arbitrage.
Mais médaille de bronze, toi, elle était prévue, ta médaille ou pas?
J'étais numéro un mondial, donc quelque part, je pense que je faisais partie des.
Mais tu dis dans ta tête, en arrivant au jeu, on a un objectif de médaille, il fallait faire mieux qu'à Londres, donc qu'on soit dans les entre 35 et 40. Est-ce que toi, à un moment donné, cette petite musique de j'ai un statut à honorer?
J'avais un statut dans ma discipline, j'avais un statut au niveau de mon sport, au niveau de mon pays aussi, parce que tu représentes ton pays aux Jeux Olympiques. Mais par contre, je me suis jamais fié au nombre de médailles qui avaient été annoncées pour les Jeux 2016. Mon objectif, c'était numéro un mondial.
Investi de la mission d'obtenir une médaille parce que t'es le premier mondial.
Oui, non, mais donc c'est surtout
ça revient. À la limite, on s'en fout que, en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur de sportif, on s'en moque si vous voulez, parce qu'on sait très bien que ce qui compte, c'est la performance. C'est quoi faire pour conduire à la meilleure des performances qui induira donc un titre ou une médaille olympique. Mais cela dit, il faut se mettre à la place du grand public et aussi dire que pour les Italiens que vous citiez à l'instant, ben aussi leur comité olympique a défini un objectif de médaille. Ça les a pas empêchés de surperformer. Donc il faut se mettre à la place du grand public. Et moi, je verrais pas la France, en tout cas les représentants du comité olympique et sportif français, ne pas définir d'objectif de médaille. Ça voudrait dire qu'on s'en fout si on était comme ça. Ça voudrait dire que nos pouvoirs politiques s'en moquent complètement.
Mais ça veut pas dire que tu t'en fous, Pascal.
T'en veux le plus possible.
C'est Renaud. C'est comme si toi tu vas en conf de presse d'avant-match et tu dis on y va pour gagner le match.
Non, mais ça c'est nul.
C'est
ça.
La palice,
non
mais Renaud, enfin, tu vois, c'est pareil.
Non mais Renaud, je te rejoins sur le facteur limitant. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour le sportif ou les sportifs que nous sommes, ou ceux qui dirigeons, qui entraînons les sportifs, mais pour le grand public, avant un événement comme les Jeux Olympiques en 2024, eh bien, le fait qu'on étalonne le nombre de médailles espérées pour l'équipe de France, je vois
public,
ça d'un très bon œil. Et puis,
Pascal,
on en a fait 33
public,
en 2020.
Il va faire ses pronostics tout seul, le grand public, parce que c'est jouer Madame Irma de dire combien on va faire de médailles. Enfin, je veux dire, les aléas.
Oui, mais cela dit, ça accroche. Par exemple, nous avons avons fait 33 médailles aux derniers Jeux Olympiques en 2020. Ben, tous autant que nous sommes, nous espérons en faire davantage. Mmh. Ben, c'est normal qu'on fixe un objectif en nombre de médailles. Mmh. Parce qu'ensuite, si jamais c'est pas le cas, eh bien, c'est toute la politique sportive du pays qu'il faudra remettre en
mais
cause.
Pascal,
et là, on pourra pointer du doigt les insuffisances et le manque d'argent qui est alloué à certaines fédérations.
Bon, Pascal, reste calme, Pascal.
Merci,
le problème, ce qui nous agace, les techniciens, avec cette histoire de médaille.
Vous aimez pas la pression, c'est tout.
Mais non, c'est que tout ça, on pense, ça c'est vraiment, en France, on pense au résultat avant de penser à comment faire le résultat. Et ça, c'est agaçant. Et c'est ce que disait Cyril. C'est que, on a annoncé 80 médailles alors qu'on était à 7 ans des Jeux. Il aurait fallu brasser d'abord, faire des étapes, d'abord un brassage. Qu'est-ce qu'on a fait? Un garçon comme Marc Dellenbach, qui est l'entraîneur national du tir à l'arc. Parce que les médailles, tu vas pas les faire avec les sports collectifs. Les sports collectifs, au volleyball, il y a une médaille féminine, une médaille masculine. Les médailles, si tu veux 50 médailles, il faut aller chercher le tir à l'arc, il faut aller chercher le taekwondo, il faut aller chercher de l'escrime, il faut aller chercher du judo.
Il faut aller chercher le patinage de vitesse au jeu d'hiver,
ouais,
là,
surtout au jeu
la Hollande
d'été,
par exemple. Ouais. Non mais c'est
surtout
la même chose.
Surtout au jeu d'été, c'est sûr, tu sors, merci. les garçons, il faut vraiment penser que il aurait fallu, parce que là, ça, malheureusement, Cyril a bien raison, c'est qu'on en France, on pense aux résultats et au nombre de médailles avant de comment faire le résultat. Et c'est vrai qu'il aurait fallu mettre des moyens, c'est vrai qu'il aurait fallu activer des leviers, aller chercher des niches,
Tu sais à qui tu me fais penser à Giroud lorsqu'il disait nous on joue le maintien, c'est un peu pareil, c'est le même état d'esprit en fait.
Ok.
En parlant de tir à l'arc, Jean-Charles Valadon, il va aller la chercher sa médaille. Voilà.
Ok.
Voilà. C'est annoncé.
Merci
aujourd'hui.
Coucou à un copain qui s'appelle Jean-Charles Valadon. Nous aussi, on a un copain qui s'appelle Valadon à la radio. Mais
Jean-Charles est vice-champion olympique en 2016.
Oui, lui, il est meilleur au commentaire.
Tu vois, Cyril, tu t'y mets, tu fixes un objectif là. Tu nous dis qu'il va l'avoir sa médaille.
Bah, c'est
tu
sûr.
T'y mets aussi. T'as rejoint notre camp.
Vous avez tous donné des arguments.
Il n'y a plus que Renaud Longuet.
Je reprends.
Finir avec le tir à l'arc, c'est que l'entraîneur qui a fait une médaille olympique, on l'a viré. Parce que le DTN l'avait dans le collimateur, maintenant il fait le bonheur des Allemands. Voilà le sport français.
Ok, je reprends la main, écoutez la petite musique. Vous avez été très bons, chacun dans votre camp. Pour vous, c'est indispensable de donner un objectif de médaille. Ça, c'était le camp Christophe Cessieux, Pascal Duprat. Non, c'est ridicule d'annoncer un objectif. Renaud Longuèvre, Cyril Marais. Nous sommes partis à 50-50.
Mais on est toujours à priori.
Eh oui, mais maintenant j'ai la petite virgule qui va tout changer.
Aïe.
J'ai un vainqueur.
C'est
extrêmement
bon,
serré parce que c'est 50,3
bravo, Renaud.
Face à 49,7.
Ah ouais.
Qui a gagné ce débat?
Ben nous, évidemment.
Ben nous.
Les puristes, les gens du terrain.
50,3.
Ça peut changer encore.
Pour indispensable.
Eh oui,
c'est la victoire
bravo,
de Pascal.
Pascal.
Eh oui, Christophe.
Bravo, Christophe.
Hey, Christophe là, la voix royale pour Cruyff. Cruyff. Allez, Christophe.
Le populisme.
Ça, c'est les gens dans leur canapé, ça, Renaud. C'est les gens dans leur canapé dimanche matin, ils sont encore en pyjama.
C'est toujours la faute des gens, des journalistes. Vous connais, mes chers sportifs. Merci beaucoup, Morgane Maury, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants. C'était mieux avant. Votre bonbon nostalgique de Christophe Cessieux. Johan Cruyff, nous célébrons cette semaine les 6 ans de sa disparition. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
11h30, les grandes gueules du sport, toujours avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Pascal Duprat, Renaud Longuèvre. Sachez que dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. On a parlé de Kolo Muani, on a parlé de Thomas Hurtel et de cette interview fracassante dans l'équipe MAG. Également de Fabio Quartararo, de la remontada, c'était le débat caché. 6 ans après, est-ce que vous avez changé votre regard sur cette remontada? Bon, je mange un peu mon chapeau parce que tout le monde disait non, j'étais le seul à dire oui. Et puis 11h sur cet objectif de médaille aux Jeux Olympiques, indispensable ou ridicule. C'était extrêmement serré dans le studio RMC et avec vous au sondage. Donc n'hésitez pas à vous composer le 32-16 pour affronter une GG. Tous les dimanches à 11h30, Christophe Cessieux nous compte un moment d'histoire.
Les GG.
Restez donc surtout en piste, Fangio et Brooks. Mais Fangio devait l'emporter.
Les amants français ressortent le grand jeu, Dewey sans tête. Dewey, c'est le pelé de l'équipe française.
C'était mieux avant.
Il y a quasiment 7 ans, jour pour jour, Johan Cruyff disparaissait, la légende néerlandaise.
Ce 7 juillet 1974, l'ambiance est à la fête autour du stade olympique de Munich. Deux ans seulement après le drame des Jeux de 72 qui a endeuillé la capitale de la Bavière, l'Allemagne, en ce début d'été, a retrouvé le sourire en organisant pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde de football. Un mondial dont les Allemands de Beckenbauer et de Gerd Müller s'apprêtent même à disputer la finale face aux petits voisins néerlandais qui, en matière de foot à l'époque, ne représentent pas grand-chose. Pourtant, en quelques semaines, les Oranges, irrésistibles de talent et de vitesse, ont mis le monde du foot dans leur poche. Des Hollandais au look de rockstar, une bande de beaux gosses aux cheveux longs, Ray-Ban et Pat Def à la ville, qui sur le terrain portent un maillot orange flashy, frappé du lion néerlandais. Pour le journaliste Chérif Guémour, spécialiste du foot batave, ils sont tout simplement beaux à se damner.
T'avais le bleu des Italiens, le jaune d'or des Brésiliens, tu avais le maillot blanc des Allemands. Et les Hollandais sont entrés dans la caste des couleurs par le orange. Puis un maillot assez simple, dépouillé et tout, avec le gros lion noir. Et puis il y avait une esthétique, les mecs étaient vraiment beaux, c'était des rockstars et tout. C'est entre rockstars et puis ils avaient la décontraction aussi, mais qui collait à l'époque.
Mais au-delà de leur esthétique, ce dont raffolent les fans des Oranges, c'est surtout leur manière de jouer. Un foot spectaculaire, baptisé foot total, où tout le monde attaque et tout le monde défend, quel que soit son poste, et ce, à une vitesse supersonique. Un concept inventé par Rinus Michels, à l'époque entraîneur de l'Ajax d'Amsterdam.
L'invention du football total, c'est une œuvre co-créée par à la fois Rinus Michels, entraîneur de l'Ajax, et Johan Cruyff. La nouvelle vision du football très moderne que Rinus Michels va inventer, c'est lui qui la met en place tout au long des années 60, quand il arrive à l'Ajax en 65. Donc il a un plan, il sait où il veut aller, et il a le cadeau inouï qui tombe du ciel, c'est-à-dire Johan Cruyff, qui va être le centre, l'élément moteur du football total.
Et compter Johan Cruyff dans ses rangs est effectivement un cadeau du ciel pour l'entraîneur néerlandais. Du haut de son 1m78, juché sur des cannes de serin, le Hollandais volant voit tout et parcourt le terrain à une vitesse phénoménale, enchaînant dribble, passement de jambes et autres Cruyff turn avant de délivrer des caviars à ses adversaires, à ses partenaires ou des frappes qui déconcertent les gardiens adverses. Oui, Johan est un génie du ballon rond, doublé d'un organisateur né, talent précoce qui lui permet de se faire une place au sein de l'effectif de l'Ajax alors qu'il n'est encore qu'un adolescent. Jordi Cruyff est le fils de Johan.
À 17 ans, il replaçait déjà des joueurs de 30 ans qui avaient gagné plusieurs titres à l'Ajax. Il leur disait où se mettre et comment faire. Ce n'est pas une situation ordinaire. Je pense que déjà là-bas, il a montré qu'il était différent. Normalement, les joueurs de 17 ans viennent au vestiaire en tremblant.
Le garçon a du caractère et déteste déjà qu'on lui dicte sa conduite. En 1966, à 19 ans, alors qu'il vient de faire ses débuts internationaux, il est expulsé dès sa deuxième sélection pour avoir osé contester une décision de l'arbitre et suspendu durant un an. Qu'à cela ne tienne, Johan, le rebelle, va pouvoir se consacrer entièrement à son club avec lequel il va tout gagner. Leur premier expo européen, les Ajaxides, leur sublime maillot blanc à large bande rouge, le réalisent en 69 dans le vieux stade de Colombes. Ce jour-là, en match d'appui européen, ils affrontent les Portugais du Benfica et leur star Eusebio, qui n'auront voir que l'arrière des chevelures des Hollandais volants.
Les Pays-Bas, à l'époque, ça sort de nulle part, ça n'existe pas. L'arrivée de l'Ajax, c'est comme une irruption soudaine à la table des grands d'un tout petit pays, d'un tout petit club. Et la sensation, elle est créée quand on apprend dans toute l'Europe que le grand Benfica a perdu en match d'appui, 3-0, hein, contre l'Ajax, avec un certain Johan Cruyff qu'on connaissait un peu. Mais là, on savait que ça commençait à devenir sérieux, quoi.
Quelques semaines plus tard, les jeunes néerlandais atteignent leur première finale européenne. Mais ce jour-là, subissent la loi du Milan AC et de ses stars de l'époque, Giovanni Trapattoni et Gianni Rivera. Pour Johan Cruyff, cette défaite, l'Ajax le doit à son manque d'expérience. On devait gagner la finale de la Coupe d'Europe. C'était à Madrid contre Milan. Et on a perdu. On n'était pas moins bon, on manquait simplement d'expérience. Mais il faut analyser cette erreur, ces erreurs et en tirer des leçons. Et la grande période a commencé en 71. Oui, la grande période de Johan et des siens, qui à partir de 71 vont régner sur l'Europe, remportant 3 coupes des clubs champions d'affilée, gagnant leurs 14 matchs à domicile et inscrivant la bagatelle de 34 buts pour seulement 3 encaissés. Une domination sans partage des guerriers d'Amsterdam et de Maître Johan, tout à la fois star de l'équipe et organisateur hors pair, Johnny Rep et Jack Swart faisaient partie de cette Dream Team des années 70.
Johan était un meneur né. Il était le moteur de l'Ajax et de notre équipe. Il a toujours dégagé ça. Et ça a beaucoup compté pour l'Ajax.
J'ai joué pendant 7 ou 8 ans avec lui. Et on a gagné 3 fois la Coupe d'Europe ensemble. C'était le meilleur.
Si les qualités footballistiques de Cruyff sont indéniables, son caractère, en revanche, va poser problème. Le taulier de l'Ajax est aussi un despote que ses coéquipiers supportent de moins en moins.
Quand le talent est au sommet et quand le génie explose, forcément, avec un mec qui a déjà un melon au départ, le melon, il devient écrasant. Et ça se finit mal parce qu'en 73, alors qu'il est capitaine de l'équipe d'Ajax et qu'il souhaite le rester, il y a un vote pour définir qui sera le nouveau capitaine pour la saison 73-74. Et pratiquement tous les joueurs de l'Ajax votent contre lui. C'est dire à quel point les joueurs ne le supportaient plus.
Une décision qui met Cruyff hors de lui. Vexé, celui-ci décide alors de quitter son doux cocon néerlandais pour gagner l'Espagne et le Barça lors d'un transfert qui rapportera à l'époque 2 millions de dollars à l'Ajax, un record. Sur les Ramblas, l'ambiance est à la fête, la Catalogne, brimée par la dictature franquiste, va faire de Cruyff son héros. Un héros qui, de son côté, va indiquer au Barça la voie du succès, Joan Laporta, le président du club catalan.
Nous ne connaissions pas la victoire. Il y avait 14 ans que le Barça gagnait rien. Et il est venu, l'année qu'il est arrivé, nous avons gagné la Ligue. La décision de venir au Barça, c'est une décision d'une personne qui avait une très grande personnalité. Le normal était aller au Madrid, club de la dictature. Et Barça était le club de la liberté, de la démocratie. Et c'est pour ça que pour nous était très important que le meilleur joueur du monde décide de jouer au Barça.
Et après seulement quelques matchs sous le maillot Blaugrana, Cruyff signe son arrivée de manière magistrale, infligeant la première et seule manita de son histoire au vieux rival madrilène sur ses terres du Bernabéu. Un sacré souvenir pour celui que les Catalans vont baptiser El Flaco. Maigre peut-être, mais sacrément costaud. C'était formidable pour moi en tant que joueur de jouer à Madrid. C'était un événement important. D'abord de jouer au Bernabéu et puis, si vous avez vu le match, on a plutôt pas mal joué, je crois. Quelques mois plus tard, le Barça remporte sa première Liga en 14 saisons. Cruyff est fait prince de Catalogne. Le seigneur du Camp Nou va désormais s'attacher à remporter le dernier titre qui manque encore à son palmarès, celui de champion du monde. Pour l'occasion, il retrouve en Allemagne ses anciens équipiers de l'Ajax, mais également son entraîneur de toujours, Ines Michels, un attelage fantastique qui va marcher sur le reste du monde. Tour à tour, les oranges mécaniques roulent sur l'Uruguay, la Bulgarie, puis l'Allemagne de l'Est, avant d'anéantir l'Argentine, 4-0, c'est bon ça, dont deux chefs-d'œuvre signés Cruyff.
Voilà le premier but, réussi par Johan Cruyff, vraiment à la limite du hors-jeu Johan Cruyff, et après avoir éliminé le gardien, dans un angle un petit peu fermé du pied gauche, Johan Cruyff réussit le premier but.
Ne reste plus qu'un dernier obstacle à franchir avant de retrouver l'Allemagne de l'Ouest en finale. Un adversaire titanesque, vainqueur de 3 des 4 dernières Coupes du Monde, la Seleção, des Rivelino, Paulo César et autres Jairzinho. Mais les Brésiliens, orphelins de Pelé, fraîchement retraités, ne vont rien pouvoir faire, eux non plus. À la 50e minute, l'autre Johan Niskens, premier lieutenant de Cruyff, ouvre le score sur un service de son seigneur et maître.
Regardez bien la remise de Cruyff du pied droit. Et Niskens qui lobe Léao, 14e but pour les Hollandais. Niskens, l'un des meilleurs joueurs de cette formation hollandaise.
Et face aux anciens maîtres du monde, Cruyff met lui aussi le pied à la patte en inscrivant le but du 2-0. Pour leur première participation au Mondial depuis 1938, les Oranges sont en finale. Cette Coupe du Monde ne peut plus leur échapper. La planète entière en est persuadée et s'attend à un nouveau triomphe de la bande à Cruyff opposée à la Nationalmannschaft d'un autre dieu du stade, le Kaiser Franz Beckenbauer. Et dès la première minute, Cruyff confirme les pronostics, s'enfonçant dans la défense allemande comme dans du beurre, avant d'être fauché par Rennes.
Ouais, toujours, qui s'infiltre dans les 16 mètres. Et pénalty, j'ai l'impression que M. Taylor accorde un pénalty. Pénalty tiré par Niskens après une minute de jeu en force comme d'habitude. Et premier but, parti par la Hollande, voilà un match qui promet.
Le match a débuté il y a à peine 90 secondes que voici déjà les Hollandais devant. Ils ne vont faire qu'une bouchée des Allemands. Mais la suite sera plus cruelle pour les Néerlandais. À la 26e minute, l'arbitre accorde un nouveau pénalty. Mais pour l'Allemagne cette fois-ci.
J'ai l'impression que ce pénalty Décidément, deuxième pénalty pour une faute de Rahn. C'est Breitner qui tire. Et à contre-pied, égalité, 25 minutes.
Les Hollandais, malmenés, n'arrivent pas à mettre leur jeu en place. Cruyff s'agace. Gerd Müller, lui, en profite. Un avantage que les Allemands vont chèrement défendre durant la deuxième mi-temps avant que M. Taylor ne délivre tout un peuple et en accable un autre.
M. John Taylor, l'arbitre anglais, vient de siffler la fin du match. Gerd Müller, l'auteur du but décisif, va s'agenouiller sur la pelouse.
Dans les cafés, dans les restaurants, partout l'attention a été mobilisée. Tout avait été fait pour animer la flamme des supporters et même pour encourager les plus braves. Ainsi, les dames de petite vertu du quartier réservé d'Amsterdam s'étaient offertes de travailler gratuitement 2 heures ce soir. Que restera-t-il de ce grand moment? Un bon souvenir tout de même, le visage d'un nouveau héros, celui de Johan Cruyff, et aussi ce très beau but marqué au début du match, qui permettra ce soir aux Hollandais de se consoler.
Alors je crois que bien que nos cœurs aient été pour la Hollande, eh bien il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Les Allemands sont champions du monde et ils l'ont bien mérité.
Pour la première fois de sa majestueuse carrière, Cruyff n'atteint pas son objectif et ne l'atteindra jamais. Cette Coupe du Monde que Pelé, Maradona, Zidane et les autres grands de l'histoire du foot ont un jour brandi, lui, ne l'a touché que des yeux. Cela en fait-il pour autant un joueur moins prestigieux? La réponse de Cheryl Guémoir.
C'est quoi la différence entre Platini et Zidane? On n'en a aucune. C'est deux génies tous les deux, sauf qu'il y en a un qui a gagné la Coupe du Monde et l'autre qui ne l'a pas gagné. C'est pour ça que Cruyff, il est l'égal de Pelé et Maradona, même s'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Mais comme il ne l'a pas gagné, bah forcément, tu laisses une trace un peu moins importante dans l'histoire.
Non, Cruyff, malgré sa classe et son palmarès ébouriffant, ne sera jamais considéré comme le GOAT. Sauf peut-être pour les gamins des 70s qui, comme moi, sont nés au football par la grâce et le talent d'une rockstar néerlandaise aux cheveux longs et aux dribbles irrésistibles.
Johan Cruyff, raconté par Christophe Cessieux, c'était mieux avant aujourd'hui. Merci beaucoup, mon cher Christophe. Votre petite réaction, qu'avez-vous envie de retenir? Je me tourne vers Pascal, c'était une idole de jeunesse ou pas, Johan Cruyff?
Ah oui, clairement. J'avais 12 ans là pendant cette Coupe du Monde en 74. Et je crois pouvoir dire que c'est une de mes premières grandes déceptions que me cause mon sport favori. Il y en aura d'autres par la suite, beaucoup d'autres. Mais là, j'étais Bertie Vox, qui l'avait pris au marquage individuel. Si j'avais pu le tuer, franchement, je l'aurais tué. Parce que Cruyff, il n'a pas fait une super finale à cause du marquage individuel qui lui a été infligé par Bertie Vox. C'est un joueur phénoménal, Johan Cruyff, d'une élégance rare.
Ok, l'idole de Pascal Duprat, Cyril Marais, il te reste quoi?
En 1974, forcément, j'étais pas né, donc, mais c'est toujours plaisant d'entendre Christophe conter ses histoires, parce que j'apprends énormément. Voilà, je savais très bien que c'était un très grand footballeur. Voilà, trois ballons d'or. Et puis, ce qui est super plaisant aussi, c'est quand tu passes dans un club et que tu as ton petit surnom à chaque fois, c'est que tu marques l'histoire. Voilà, tu vois, là, c'est le prince d'Amsterdam, après derrière.
El Flaco pour les Catalans.
Voilà, le maigre.
Voilà, souvent pour.
Salvador aussi, le sauveur, il l'avait nommé aussi en catalan.
Pour les plus jeunes et les supporters parisiens, on dit El Flaco, ils pensent à Javier Pastore, mais non.
Le vrai Flaco, c'était
Johan Cruyff quand même. Renaud Longuet.
Très grand joueur.
Oh, il a fallu qu'il nous sorte le PSG, Jean-Christophe, alors qu'on est en train de parler de Cruyff. franchement.
D'ailleurs, est-ce que vous avez changé d'avis sur la remontada? On a perdu débat à 10h30. Pardon.
Je sais peut-être que l'Allemagne avait acheté les arbitres.
C'est possible.
Et peut-être que Cruyff serait le GOAT, peut-être aujourd'hui. Ouais. Non, moi, ce qui dans le récit de Christophe, il y a une anecdote qui a retenu mon attention. C'est le vestiaire de l'Ajax qui vote à l'unanimité. Ouais. Ça montre la dureté du football professionnel.
J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait nous parler du bénévolat des.
Non, mais t'imagines le mec. C'est,
de la soirée.
C'est une légende incroyable. Et il avait tout le vestiaire contre lui, quoi. Ça veut dire que bon, c'est dur quand même, les rapports humains dans un vestiaire.
Quand on lit sur Johan Cruyff, apparemment, c'était une sacrée tête de con. Hein.
Ouais.
Donc, mais bon, c'était
le. Est-ce qui est incroyable aussi, c'est que ce garçon, Pascal, qui a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire, est devenu aussi l'un des plus grands entraîneurs. C'est quand même bien assez sûr. Rare que des grands joueurs fassent de grands entraîneurs. Lui, c'est un contre-exemple, en quelque sorte.
Ça m'inspire un débat, ça, bientôt, dans les grandes gueules du sport. On en fera, mon cher.
Non, mais c'est l'inspirateur du jeu barcelonais, ensuite repris par Guardiola. On va dire l'apôtre de ce jeu-là, c'est Johan Cruyff. En tant que joueur, puis ensuite en tant qu'entraîneur. Mais pour revenir, un truc aussi exceptionnel, c'est qu'il fumait comme un pompier aussi.
Ouais, bah c'est la sœur
des joueurs de foot qui fumait comme un pompier. Ouais.
Mais pour en venir à ce que dit Pascal aussi, on pourrait faire un débat là-dessus. Je pense que les plus grands acteurs du sport mondial, forcément, à un moment donné, c'est un peu des têtes de con, quoi. Je veux dire,
bah oui.
Tous les grands sportifs, c'est des têtes de con.
Tu dis ça pour Teddy Riner? Tu dis ça pour le copain Teddy Riner ou pas?
Ah, peut-être pas, quoi.
Bon, David Douillet, qui tu bosses, peut-être?
Ouais, je vais dire à David.
Tu couperas ça au montage.
Je vais lui envoyer un petit WhatsApp.
Tu couperas ça au montage. Il y a une part chez les très grands sportifs, t'as forcément une part individuelle, t'as une part d'égoïste, voilà, c'est toi, et puis parce que t'es le meilleur, c'est tout, voilà, c'est comme ça.
Mais ça me fait penser.
C'est l'ego surdimensionné.
Ouais, c'est ça.
Si on replace ça dans notre époque, aujourd'hui, et cette semaine, à toute cette histoire au niveau du Capitana, en équipe de France avec Kylian Mbappé, ça me fait un peu penser à Johan Cruyff. J'espère que ce ne sera pas la même chose avec un vote à l'unanimité contre lui au sein du vestiaire. Mais voilà, t'es un grand champion, t'es une grande star, mais forcément, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Merci beaucoup Christophe Cessieux. Tous les C'était mieux avant à retrouver en podcast. Vous verrez juste à côté des grandes gueules du sport, il y a la petite photo de Christophe Cessieux. Vous ne pouvez pas le rater, hein, les cheveux blancs, tout ça. C'était mieux avant. Toutes les magnifiques histoires avec lui. Dans cette rubrique, 11h48, on se retrouve dans quelques instants. Ah, c'est pas Cyril Marais, mais il y a un Cyril qui nous appelle au 32-16. Il veut réagir au scandale de la remontada. Non, il veut parler et je crois qu'il est d'accord avec moi. Wow. C'est parfait. Venez avec nous dans cette émission. Le 32-16, c'est à vous de jouer les auditeurs. À tout de suite.
RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
Allez, la partie des dernières grandes gueules du sport, des dernières minutes des grandes gueules du sport. Je remets les mots dans l'ordre avec Christophe Cessieux, Cyril Marais, Renaud Longuèvre, Pascal Duprat et vous, les auditeurs. Sachez qu'à partir de midi, les paris RMC, on sera là pour vous parler des matchs de ce dimanche, mais également pour se projeter sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. On vous donne toutes les cotes. Donc restez bien avec nous. Tout de suite, le 32-16, c'est à vous, les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport. Et vous?
Patrick nous appelle au 32-16. Salut Patrick.
Oui, allô?
Oui Patrick, bonjour. C'est Jean-Christophe Drouet, vous êtes?
Patrick.
À l'aéroport. Très bien, enchanté Patrick. On affronte qui aujourd'hui?
Mon cher ami Pascal.
Pascal Duprat, très bien. Sur quel sujet?
Bah, la moto.
Fabio Quartararo, notre débat c'était est-ce mission impossible pour lui, le seul pilote Yamaha dans le top 10 et qui va affronter toutes les Ducati. Pour Pascal, bah c'était oui, il faut y croire en tout cas en Fabio Quartararo. Patrick, à toi.
Non, il faut pas y croire, c'est mort quoi. Je sais pas si Pascal a suivi un petit peu tous les essais hivernaux, mais en fait Fabio il est dégoûté quoi. Il se dit mais c'est quoi cette équipe quoi, cette moto quoi. Non, ça le fait pas du tout quoi. Même avec tout son grand talent, bien sûr, il rivalise avec des Marc Marquez sans problème quoi. Mais simplement là, on lui donne un jouet mais qui est pas adapté quoi. Et c'est foutu quoi. C'est foutu.
Bon, t'es optimiste en tout cas, Patrick.
Oui, ça me
fait plaisir. Je pense que Pascal va aller là-dessus, Pascal.
Ouais. Patrick, détends-toi, enlève le nœud de la corde qui me manque.
Oh, je te libère toi. On n'a pas, Pascal.
Ouais, mais on n'a pas commencé encore. C'est le premier Grand Prix. Laisse faire. Moi, je retiens une chose de ce que tu as dit, et là, tu me rejoins. C'est le principal. C'est un pilote talentueux. Donc avec un pilote de ce niveau-là, on peut tout espérer. On peut tout espérer. Tu verras qu'il va nous tenir en haleine. C'est tout le mal que je lui souhaite.
Non. Malheureusement, Pascal, tu te trompes. Quoi.
D'accord, Patrick.
Tu vois, il y a un pilote, Marc Marquez, qui avec une moto moyenne, arrive à créer le buzz, quoi, à faire. Et là, je pense que.
T'as regardé le sprint hier?
Ah bah oui, j'ai regardé le
T'as
sprint.
T'as regardé?
Ouais. Ah oui, j'ai regardé
plusieurs reprises. Pardon.
La moto, je regarde tout de A à Z.
Pardon pour RMC, je l'ai regardé donc à la télévision. Oui,
T'as bien le droit, mais cet après-midi, tu vas l'écouter à la radio.
T'es juste viré, mais t'as le droit.
Mais est-ce que tu as écouté les commentaires où à plusieurs reprises, il disait qu'il faisait jeu égal autour avec les meilleurs? Bah, il a été retardé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce qui veut dire que sa moto, elle n'est pas si mauvaise que ça.
À quelle position, Pascal?
Mais il aurait pu être dans le groupe des sept premiers s'il n'avait pas eu, non, mais s'il n'était pas resté planté sur la ligne de départ.
Et
s'il n'avait pas été accroché. Non, mais il a été accroché.
Aujourd'hui, il part en 10e position. Et que c'est un bordel à Mortimao.
Non, par rapport à... Patrick, je suis pas d'accord avec toi, t'es de mauvaise foi. Il est, y compris hier, moi, il est parti en 11e position, mais cela dit, il a eu un problème mécanique au départ, et ensuite, il a été gêné par un pilote qui l'a contraint à être dernier. Il a fait une remontée, s'il avait pas eu tous ses avatars, avec la moto que tu décris comme en étant pas performante, il aurait été dans le groupe des 7 premiers. Et comme il est très très bon pilote, il aurait fini tout près du vainqueur. Donc, attendons un peu avant de clairement exprimer ce pessimisme qui, tu me l'accorderas, de ne pas envie de regarder la moto.
Bah, Patrick, tu reviens dimanche prochain et tu pourras enfoncer les deux là.
C'est vrai que c'était pas la première fois que.
Ah, merci Christophe pour ta solidarité. Ouais, toute convenue. Merci Christophe, merci.
Mais non, mais sur le débat, j'étais contre toi.
Sais.
Et je partage l'avis d'un spécialiste de moto comme Patrick. Voilà.
Merci Patrick d'avoir été avec nous au 32-16. C'est vrai que c'est pas la première fois que Patrick nous appelle et n'est pas d'accord avec le très bon Duprat. Patrick. Il y a un très bon match entre les deux. Cyril nous appelle également au 32-16. Salut Cyril.
Bonjour équipe.
Cyril, tu veux t'attaquer à qui ce matin?
Tout le monde sauf à toi.
Ah oui.
Ah là, supporter du PSG, tiens.
Alors, il y avait un débat caché. Je le dis pour tous ceux qui nous prennent en cours. C'était à 10h30. Allez écouter ça en podcast.
T'as dit à tes copains du
pas du tout.
Du CAP.
Non, pas du tout. Cyril, non, on se connaît pas. La question, c'était avez-vous changé votre vision? Est-ce que ça change 6 ans après votre vision sur la remontada? On parlait de faillite mentale une fois le match terminé. Aujourd'hui, on a un peu plus sur le scandale d'arbitrage. Et vous étiez tous d'accord pour dire que ça n'a pas du tout changé ma vision. Pour nous, c'est toujours une faillite mentale des joueurs parisiens. Cyril, ils sont à toi. Vas-y.
Alors, franchement, vous me décevez. Et je voulais juste vous signaler que la faillite mentale, alors on peut considérer qu'il y a une certaine, proportionnellement à l'ampleur de l'arbitrage, en fait, on s'aperçoit clairement que cette remontada, accessoirement, en amont du match, 3 semaines avant, la presse française dans son ensemble, sans vous juger, vous, plus qu'un autre ou une autre, a ressassé le terme remontada pendant 3 semaines avant le match.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste pas 3 semaines avant. Je sais que 2 jours avant, l'équipe avait fait avec Messi en une sur eux, ils y croient en Espagne. Enfin, ils croient à la remontada. Voilà, c'était plus ça.
Ouais. Alors, excusez-moi pour avoir exagéré un tant soit peu comme pourrait le faire un Marseillais.
C'est pas bon. Vas-y.
Mais tout ça pour dire que on se met quelque chose dans la tête. Les joueurs ont cru un petit peu. Accessoirement, c'est le Barça qui, pendant les poules, a gagné 7-0 contre le Celtic, 3 ou 4-0 contre Manchester City au Camp Nou. Vous prenez un but au bout de 2 minutes, ce qui est triste à mourir, puisque Kevin Trapp avait accessoirement été très mauvais.
Ouais, il n'y a pas que Kevin Trapp, son premier but, je crois que c'est le serpent d'air. Hein.
Ouais, ils sont tous un paquet. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et après, vous avez un pénalty qui n'est pas sifflé pour Paris, un rouge de Mascherano sur Cavani, c'est un scandale. Et au lieu de ça, Cavani se rebiffe parce qu'il est un poil en colère sur le geste totalement immaîtrisé du joueur. Et qu'est-ce qui fait l'arbitre? Il met un jaune à Cavani. Et un pénalty pour Suarez qui est inventé. Personne ne sait d'où ça vient. Vous avez 100 000 personnes dans le stade qui poussent parce qu'on y croit, parce que si ces erreurs-là, parce qu'à 3-1, comme tu le disais tout à l'heure, si il se passe ce qui doit se passer 9 fois sur 10, que l'arbitre il est cohérent, eh bien le match on ne le perd pas. Alors ça n'enlève en rien que Thiago Silva a reculé, que Verratti a été petit bras, si vous le voulez. Mais il y a un moment donné, messieurs, il faut aussi défendre un petit peu le football français et être capable de dire que ce match-là, 9 fois sur 10, on le gagne, ou en tous les cas, on ne se fait pas éliminer, et que cet arbitre-là, accessoirement, il a été pénalisé pendant 2 ans sans pouvoir arbitrer.
Et je vais même te dire, Cyril, même journalistiquement parlant, non mais moi je m'en suis voulu d'avoir autant fait d'émissions sur la remontada et d'avoir critiqué. Non mais critiqué à ce point les Parisiens, alors que à aucun moment on titre sur ce fiasco d'arbitrage et sur ce scandale d'arbitrage. Et je reconnais que même moi je suis parti tête baissée sur qui a existé la faillite mentale.
Mais ça avait été soulevé, Jean-Christophe, à l'époque.
Oui, mais ça a été dit, mais à demi mot. C'est-à-dire que ça a été dit, mais en fait, la faillite mentale a tout bouleversé et a tout englouti.
Plus on s'en fout, vous avez jamais rien gagné en Europe, là. On s'en fout.
Puis à partir du moment où il y a un sport.
Si derrière, vous aviez assuré.
C'est vrai que l'OGC Nice est en train de tutoyer les sommets.
On n'a pas les mêmes moyens.
Pardon. Ah oui, Néo, je t'ai profité.
Jean-Christophe, Cyril, c'est ton beau-frère?
Non, c'est mon frère.
Non.
C'est mon frère directement.
Non, parce qu'il y a un des arguments qui est avancé par Cyril. Bon, tu dis, il y a 100 000 personnes dans le stade. Donc en fait, pour que le Paris Saint-Germain gagne un jour la Champions League, il faut qu'il joue à huis clos à l'extérieur.
C'est comme ça qu'on gagne face au Bayern Munich. C'est comme ça qu'on se qualifie là-bas. Exactement. On prend le huis clos. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous et de m'avoir défendu. Merci beaucoup, les GG. Vous embrasse très fort. Passez un très bon dimanche. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour les Paris RMC. Salut.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.